Europe 1.
Et au carillon d'Europe 1, il est 22h et c'est Guillaume Lariche qui vous présente les informations ce soir. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous.
Europe 1 nuit week-end. Guillaume Lariche.
Parti en début d'après-midi de Barbès à Paris, le défilé contre le racisme s'est regroupé ce soir place de la République pour un concert avec des rappeurs dont l'un est pour le moins controversé. N'ayant pas reçu les primes promises par le ministère de l'Intérieur, les policiers, eux, ont prévu d'aller taper à la porte du ministère de l'Économie. Et puis alors qu'on célèbre aujourd'hui les 80 ans du droit de vote pour les Françaises et que le gouvernement réfléchit à des mesures pour encadrer la jeunesse face à la délinquance chez les ados en France, la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Constance Le Grip, sera avec nous dans Europa New Weekend pour échanger autour de l'actualité. Enfin, nous retrouverons notre envoyé spécial à Jérusalem, Wilfried De Villers, après une semaine de tensions au Moyen-Orient en raison de l'attaque de drones et de missiles par l'Iran sur Israël. Les deux pays semble s'éloigner d'une escalade.
Europe 1.
À Paris, une marche antiraciste a quitté Barbès en début d'après-midi pour rejoindre la place de la République. Ce soir, 3000 personnes réunies d'après la police, une cinquantaine d'organisations représentées, comme LFI ou encore le nouveau parti anticapitaliste. Guillaume Dominguez, vous avez suivi cette marche contre le racisme et ce soir, la musique ne va peut-être pas adoucir les mœurs.
Oui, ici, environ 200 personnes sont rassemblées devant une petite scène sur la place de la République. Depuis maintenant plus d'une heure, plusieurs rappeurs se succèdent avec parfois une prise de parole pro-palestinienne ou à l'encontre des forces de police. Est attendu ici le controversé rappeur Medine, un concert et une journée de mobilisation soutenue par la France Insoumise. Plusieurs élus, dont Mathilde Panot et Louis Boyard, ont assisté à une partie du concert. Une après-midi de manifestation qui s'achève ici, place de la République. 3000 personnes se sont élancées en début d'après-midi de Barbès pour une manifestation contre le racisme. Une mobilisation sans incident, mais marquée par plusieurs prises de parole et slogans contre la police et l'État d'Israël.
Est-ce qu'on se dirige vers une fronde des policiers ? À 96 jours des Jeux Olympiques, ils n'ont toujours pas touché les primes promises par le ministère de l'Intérieur. Les syndicats entendent bien se mobiliser à la fin du mois devant le ministère de l'Économie et des Finances. Écoutez les explications de Grégory Joron, c'est le secrétaire général d'unité SGP Police.
À moins de 100 jours des Jeux, tout ce qu'on avait discuté pour conditionner à l'engagement des agents, parce qu'il va être quand même assez énorme, et on va leur en demander beaucoup, pour le coup est bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plusieurs primes déjà discutées depuis le protocole, qui devait sortir en 2023, on n'en a pas vu un centime. L'indemnité du journalière d'absence temporaire des CRS, qui devait être augmentée au 1er janvier, on n'en a pas vu un centime. Malheureusement, Bercy les bloque, et aujourd'hui, les conditions ne sont plus réunies, ou ne sont pas réunies, comme je l'ai dit, pour qu'il y ait un engagement fort des agents. Donc on appelle le 30 avril, en effet, à manifester devant Bercy. Parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, on a des technocrates en cravate qui font la loi sur des textes pourtant, encore une fois, je le dis, discutés et signés par des organisations syndicales majoritaires et représentatives.
Propos recueillis pour Europe 1 par Martin Lange.
Europe 1 Nuit Week-end, Guillaume Lariche.
Et dans Europe 1 Nuit Week-end, nous recevons ce soir Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonsoir Constance Le Grip.
Bonsoir.
Ce 21 avril 2024, c'est un jour anniversaire puisque ce dimanche marque les 80 ans du droit de vote des femmes en France. Vous, en tant que femme d'une part et de députée d'autre part, est-ce que c'est important pour vous de célébrer cette date ?
C'est bien sûr tout à fait important de célébrer cette date, de redire haut et fort qu'il a fallu des années et des années, des décennies de mobilisation, de combats incessants pour parvenir à obtenir le droit de vote et que nous devons, par cette journée du 21 avril, rendre hommage à toutes les féministes, à tous les hommes également qui ont accompagné les militantes féministes pour qu'enfin en France soit décroché le droit de vote aux femmes. Et puis bien sûr, nous devons également penser et rendre hommage au général de Gaulle puisque c'est lui qui a pris cette ordonnance très précisément le 21 avril 1944. Donc c'est une journée importante qui doit nous rappeler que c'est la mobilisation et le combat qui ont mené à ce résultat et que cette mobilisation et ce combat doivent encore être menés dans bien des régions du monde, bien des pays du monde. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Constance Le Grip, en tant que députée des Hauts-de-Seine, vous avez vécu vous aussi l'an dernier les émeutes. Ces dernières semaines, plusieurs personnes ont été agressées, blessées, voire même tués en pleine nuit. Des adolescents sont mis en cause. Et d'ailleurs, on a fait un sondage pour CNews, le JDD et Europe 1. 67% des Français interrogés dans notre sondage sont pour un couvre-feu pour les mineurs dès 23h à l'ensemble des villes de France. Est-ce que selon vous, cette option voulue par deux tiers des Français est normale, acceptable et à mettre en place ?
elle doit, à mon avis, être très sérieusement étudiée. Hein. Je ne suis pas absolument décidée au jour d'aujourd'hui à vous dire que c'est le remède miracle, la panacée qui pourrait résoudre les problèmes de violence, le déchaînement de violence auquel on assiste dans certaines parties de la population jeune de notre pays. Mais très franchement, il me semble que c'est une piste qu'on ne doit pas exclure. Il faut qu'on regarde très précisément avec certainement l'Association des maires de France, avec d'autres associations d'élus, s'il y a là une piste. Je pense que l'importance du combat, de la mobilisation, de l'engagement que nous devons tous mener, gouvernement, associations, élus, parents, forces de sécurité, sociologues, éducateurs, enseignants contre la violence et notamment la violence qui gangrène une partie de notre jeunesse, est tellement important qu'il n'y a aucun tabou, aucune piste qui ne doit être d'emblée exclue, et celle du couvre-feu doit pouvoir être étudiée, à mon sens, assez rapidement, en même temps assez sereinement, parce qu'elle pourrait peut-être représenter dans certaines portions du territoire une piste vraiment intéressante. Il ne faut rien exclure, toute une panoplie d'outils, comme certains ont d'ailleurs déjà été présentés par le Premier ministre, doivent pouvoir être déployés pour véritablement réussir à faire baisser la violence.
Justement, Constance Legrip, vous parlez du Premier ministre Gabriel Attal qui sera demain pour présenter l'expérimentation d'internat éducatif à Nice. Moyen pour lui de sauver les jeunes qui seraient sur le point éventuellement de sombrer face à la délinquance. L'idée, c'est de leur offrir un cadre. Et donc, est-ce que ce serait plus à l'école d'agir là où les parents n'arrivent plus ?
En tout cas, c'est à la puissance publique d'agir dans le cas de parents défaillants ou de parents qui sont débordés, qui n'arrivent plus à faire face. C'est pour ça que cette solution de mettre en place des centaines, voire des milliers de places d'internat et de les proposer à certaines familles qui n'arrivent plus à remettre leurs jeunes, leurs adolescents dans le droit chemin, hein, comme on dit un peu familièrement, est clairement une solution intéressante, et je crois vraiment qu'il faut qu'on développe cela. Ça avait été dit dans sa déclaration de politique générale par le Premier ministre. Le gouvernement tout entier a travaillé à la mise en place de ces milliers de places en internat. Vous l'avez dit, le Premier ministre se rend à Nice demain pour voir comment se met en place ce premier internat. C'est clairement une voie qui me semble être concrète, pragmatique, et que l'on peut offrir aux familles lorsque des jeunes commencent à lentement glisser vers la délinquance, vers le refus.
Vous le dites effectivement, un cadre complètement à apporter à des personnes qui sont peut-être en manque de repères. Avocat sur Europe 1 nous a reparlé de la mise en place du service militaire. Est-ce qu'il le faut pour vous ? Faut y revenir ? Au conscrit ?
Très franchement, le service militaire à l'ancienne, à la papa, entre guillemets, n'est pas, à mon sens, une voie d'avenir. Hein. J'entends bien que certains et certaines voix s'élèvent pour, de manière un petit peu nostalgique, évoquer ce service militaire. Je crois que cela ne répond plus, le service militaire tel qu'on l'a connu, à la donne de défense, à la donne de sécurité, à la donne géostratégique et géopolitique à laquelle notre pays doit faire face. Notre armée est maintenant une armée de professionnels. Il y a ce qu'on appelle le SNU, le Service National Universel, qui doit pouvoir être développé, qui doit pouvoir, c'est d'ailleurs une montée en puissance que le gouvernement appelle de ses voeux et qu'il essaye de mettre en place, qui doit pouvoir rassembler de plus en plus de jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, le CNU, des parcours citoyens renforcés tout au long de la scolarité, un engagement civique à travers également des formes de services civiques qu'il faut rendre certainement plus attrayants et dont il faut aussi tout simplement que l'on informe certainement plus nos jeunes. Tout cela doit pouvoir être déployé plutôt qu'un retour en arrière à un service militaire qui, en réalité, on le sait, ne répond plus aux besoins de nos armées et ne pourrait plus vraiment permettre d'aller vers des solutions d'avenir. Encore une fois, ce réarmement civique auquel nous souhaitons, pour restaurer la force de l'autorité de notre pays, procéder, il doit passer par toute une série d'outils où tout un chacun doit prendre sa place.
Oui, c'est plusieurs choses, c'est d'arriver à proposer plusieurs solutions.
Les parents, les parents défaillants, la justice. Il y a
alors, à propos de parents, justement, vous en parlez. On a Marine Le Pen qui, elle, est à Mayotte et qui parle, encore une fois, de supprimer les allocations familiales pour les parents, les familles qui ne rempliraient pas leur rôle de parents. Vous qui parlez des parents à l'instant, faut le faire.
Alors, tout dépend de ce que l'on entend par ne pas remplir son rôle de parent, mais effectivement, il y a des dispositifs qu'on doit pouvoir enclencher lorsque sont vraiment constatées les défaillances réelles du rôle d'éducateur qui incombe, encore une fois, c'est la loi, aux parents et aux deux parents, hein, je dis bien aux deux parents. Les deux parents restent parents, quoi qu'il arrive de leur statut marital. Et donc, nous avons mis en place, et je pense que ce sont des sujets qu'il va falloir bientôt aborder au Parlement, parce qu'il y aura certainement des lois à voter assez rapidement, un système d'amende pour les parents, par exemple, qui ne se rendraient pas aux convocations des juges, des peines d'intérêt général pour les parents qui se montreraient vraiment défaillants. Je pense plutôt à des pistes comme cela que la suppression sèche des allocations familiales. Mais clairement, le volet responsabilisation des parents, y compris responsabilisation financière à travers des amende ou à travers des prononcés de peines de travaux d'intérêt général, doit être clairement renforcé. Encore une fois, c'est clairement également le volet responsabilisation parentale que nous devons activer fortement.
Et il y a une marche contre le racisme aujourd'hui et l'islamophobie en ce dimanche à Paris, à l'appel d'une cinquantaine d'organisations d'extrême gauche notamment. Nous, on a un reporter qui était sur place et qui nous a parlé de slogans pro-palestiniens. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cet après-midi de rassemblement qui a pu lui avoir lieu à Paris?
Alors, je n'ai pas vu les images ou vu les slogans de cette marche cet après-midi à Paris.
Moi, slogan aussi contre la police, Macron assassin, ça a été vraiment assez large.
Alors, tout cela est absolument
insupportable. C'était vraiment Israël qui a été visé.
Si vraiment il y a des slogans haineux, des slogans qui appellent à la haine des Juifs, à la haine de l'État d'Israël, voire même qui sous-tendraient la volonté d'aboutir à l'anéantissement, à la disparition de l'État d'Israël, il faut que ces slogans et leurs auteurs soient dûment poursuivis et sanctionnés, bien évidemment. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette manifestation, mais ce que je peux dire, c'est que je peux tout à fait comprendre que l'on ait envie d'exprimer son soutien à la cause du peuple palestinien et que l'on a envie d'avoir une position politique, par exemple, favorable à la solution à deux États, hein, comme on le dit, la paix et la sécurité pour le peuple palestinien comme pour l'État d'Israël. Mais par contre, aller vers des positions politiques qui prônent la disparition de l'État d'Israël, qui prônent la disparition de ce foyer national pour le peuple juif est absolument inacceptable et il y aurait là des positions et des slogans que je n'hésiterais pas à qualifier d'antisémites. Donc encore une fois, faisons attention. L'amalgame, encore une fois, parce que c'est certainement de cela dont il pourrait s'agir, doit être dénoncé, très clairement dénoncé, parce que l'antisémitisme de nos jours, en France comme ailleurs en Europe, et particulièrement depuis le 7 octobre dernier et l'attaque terroriste islamiste du Hamas contre des civils israéliens, il prend également le visage, le masque de l'anti-sionisme, de la haine de l'État d'Israël, de l'appel à l'anéantissement de l'État d'Israël. Et donc nous ne devons avoir absolument aucune complaisance.
On a bien compris votre point de vue.
Au contraire, beaucoup de sévérité si des slogans, des porteurs de pancartes sont ainsi identifiés.
Constance Le Grip, quelques mots encore. Vous êtes députée de Haute-Seine. J'aimerais vous questionner sur l'A13 qui est fermée entre Saint-Cloud et Vaucresson pour cause de fissures imposantes, béantes, géantes sur la chaussée. Vous savez quoi, vous, comme dernières infos de votre côté? Et est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas pu être anticipé?
Non, pour être tout à fait franche, je n'ai aucune information de plus que celle dont vous disposez. Pour être tout à fait franche, je n'en sais pas plus que vous, les journalistes, à ce sujet.
Alors, votre confrère Karl Olive, député des Yvelines, lui demande la gratuité de la 14, le temps que justement on puisse réouvrir cette A13. Votre avis ?
Clairement, si la fermeture devait se prolonger sur plusieurs jours, ce qui semble être assez clairement envisagé, n'est-ce pas, voire au-delà, il faudrait aller vers cette gratuité, parce qu'il faut pouvoir offrir aux habitants d'Île-de-France, et notamment aux Alto-Séquanais, la possibilité de se déplacer rapidement et de manière sûre. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, une compensation à travers la gratuité sur ces quelques tronçons de l'A14 peut être une piste tout à fait sérieusement envisagé, bien sûr.
Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Nuit Weekend.
Merci à vous, merci beaucoup.
Europe 1 Nuit Weekend, Guillaume Lariche.
Europe 1, 22h15, demain, les Juifs du monde entier commenceront à célébrer Pessah, la Pâque juive. Pas forcément simple de vivre sa spiritualité, alors que ce mercredi, cela fera 200 jours que les otages israéliens ont été kidnappés par les terroristes du Hamas. Depuis, l'armée israélienne mène des petites frappes sur Gaza. Wilfried De Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem. Et une semaine après l'attaque de l'Iran sur l'État hébreu, l'armée israélienne a plus d'informations.
Oui, on apprend qu'il s'agissait de frappes doubles, des tirs de drones, mais aussi de missiles S-300. Des missiles assurent officieusement des responsables iraniens et israéliens au New York Times qui ont visé et endommagé les systèmes de défense antiaérien de Natanz, ville hautement stratégique puisqu'elle abrite parmi les plus importants centres de recherche du programme nucléaire iranien. Des images satellites diffusées par des médias iraniens d'opposition montrent également les dégâts causés par les explosions. Une façon pour Israël de montrer qu'il est capable de contourner et de neutraliser les systèmes de défense de Téhéran. Il s'agissait aussi pour les Israéliens de restaurer leurs forces de dissuasion. Plusieurs analystes militaires cités dans les médias ici à Tel Aviv affirment que ces frappes et celles en Irak hier ont permis d'ouvrir un couloir de tir jusqu'en Iran en cas de riposte de Téhéran. Les tensions semblent désormais s'apaiser malgré déclarations belliqueuses et mises en garde d'une part et d'autre.
Oui, mais Wilfried, la tension est donc montée d'un cran sur le terrain.
Oui, la bande de Gaza, particulièrement le sud, a été lourdement bombardée par l'armée israélienne aujourd'hui. Et puis, on peut aussi parler de ces différentes tentatives d'attaque contre des Israéliens en Cisjordanie. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre un réserviste de l'armée tenter d'enlever un drapeau palestinien avant de sauter sur une mine. Le drapeau était en fait piégé.
Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem. L'État hébreu qui a reçu hier un soutien financier des États-Unis par la Chambre des représentants. L'aide militaire de plusieurs milliards de dollars doit encore être approuvée par le Sénat américain, probablement après-demain, mardi. Le Sénat devra aussi valider les 61 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Son président, Volodymyr Zelensky, estime que l'argent sauvera des milliers de vies. La Russie pense au contraire que l'aide tuera encore plus d'Ukrainiens. Allez, les sports à présent avec les 24 heures du Mans Moto, remportées cet après-midi par Suzuki devant BMW Yamaha. Le circuit de la Sarthe qui accueillera les 24 heures du Mans Auto, ce sera le week-end du 15 juin. En cyclisme, Liège-Bastogne-Liège a été gagné par Pogacar ce dimanche. Le Slovène, 25 ans, s'est imposé après un raid en solo de 35 kilomètres. Le football à présent, PSG Lyon pour conclure la 30e journée de Ligue 1. C'est au Parc des Princes. Où en sommes-nous, Martin Lange ?
Eh bien, ce sont les Parisiens qui mènent 4 buts à 1, Guillaume. Des Parisiens qui ont très très bien commencé le match puisqu'ils menaient déjà 2-0 au bout de 6 minutes grâce à un but contre son camp de Matic puis un but du défenseur brésilien Beraldo. Donc 2-0 après 6 minutes. Ensuite, c'est Gonçalo Ramos qui a inscrit un doublé pour les Parisiens alors que côté lyonnais, Ernest Nuamin a un petit peu réduit le score. 4-1, donc, alors qu'on joue à peu près l'heure de jeu. Des Parisiens complètement euphoriques après leur qualification cette semaine en demi-finale de la Ligue des Champions qui réussissent à peu près tout ce qu'ils entreprennent. Et face à eux, des Lyonnais très ambitieux pour venir au parc, mais qui se font ouvrir en deux sur les contres parisiens et qui sont donc menés 4-1. Des Lyonnais qui ont un petit peu changé de stratégie à la mi-temps puisqu'ils ont fait sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur et être un petit peu moins entreprenant justement. Une petite demi-heure à jouer encore au Parc des Princes et Paris donc qui mène 4-1.
Ouvrir en deux, c'est de la boucherie donc.
Exactement, c'est une boucherie tout à fait, Guillaume.
Merci Martin. Dans les autres rencontres de ce dimanche, deux partout entre Toulouse et Marseille. Cet après-midi, Monaco-Metz, Montpellier et Lille se sont imposés. Monaco qui est actuellement deuxième du championnat avec 2 points d'avance sur Brest et 3 sur Lille. Enfin en rugby, l'ultime rencontre de la 21e journée du top 14 a lieu en ce moment. Bordeaux-Bègles reçoit Clermont.
Europe 1 Nuit Weekend.
Guillaume Lariche.
La une de vos journaux pour demain, deux sujets en première page des Échos pour qui Washington soulage l'Europe avec ses 61 milliards de dollars d'aide militaire pour Kiev. Sur le front, l'utilisation massive des petits drones bouleverse les combats. L'autre sujet du quotidien économique concerne le contrôle des chômeurs. Plus de 8 demandeurs d'emploi sur 10 cherchent bien un poste. Du côté de Ouest-France, l'agriculture européenne est à la croisée des chemins et les défis à relever pour le secteur sont nombreux. Enfin, Libération zoom sur la banalisation du Rassemblement national avec une photo de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et 22 ans après le 21 avril 2002 où Jean-Marie Le Pen accéder au second tour de la présidentielle. Le parti d'extrême droite se fond désormais dans le paysage politique et social français. À 22h19, on fait le point sur le temps. Bonsoir Anthony Kaczmarek. Nous allons surveiller le gel demain matin avec des risques de température négative en dehors du littoral.
Bonsoir Guillaume. Oui, moins 1 à 3 degrés prévus en ville, ce qui veut dire qu'en campagne, ça descendra parfois plus bas, jusqu'à moins 2, moins 3, ce qui commence à devenir problématique pour la végétation et les cultures. Moins 1 sont prévus à Nancy et à Aurillac, 0 à Reims et Nevers. 4 degrés dans Paris, mais ça gèlera certainement en grande banlieue. Et dans l'après-midi, on aura du mal à atteindre les 15 degrés, 17 péniblement à Toulon et Montpellier, 14 seulement à Nice et Marseille, 12 à Paris, Lille et Orléans, 11 degrés à Lyon et Strasbourg et 8 pour Saint-Étienne, avec encore de l'instabilité dans l'Est entre l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, la Corse. Averses de neige sur les reliefs à partir de 700 mètres dans l'après-midi et quelques coups de tonnerre possibles vers le Mercantour. Partout ailleurs, plutôt une belle matinée, mais déjà des averses près des côtes de la Manche qui gagneront tout le nord de la Loire l'après-midi avec de plus en plus de nuages. Et ce sera quand même très ensoleillé dans un large quart sud-ouest, depuis les Pyrénées jusqu'à la Loire. Tout bleu même quasiment pour la côte aquitaine. Et puis attention au vent, le Mistral et la Tramontane, notamment près de la Méditerranée, jusqu'à 80 km/h en rafale.
Merci Anthony Kaczmarek. 22h20, donc Europe 1 en ce milieu de soirée, vous faites la route avec Valérie Darmon. Et puis, puisqu'on se dit tout, Valérie m'a donné une mission, je dois amener son courrier au niveau de la boîte aux lettres, donc je vais partir de ce pas vraiment. Avant d'aller continuer mon flash.
C'est oui, ça, c'est sur le chemin, ça. Mais parce qu'on est solidaires dans la famille Europe 1. C'est pour ça, on se parle de nos vies, on se raconte et on recueille les témoignages des auditeurs qui se racontent aussi
de la sincérité,
sur l'antenne d'Europe
1. Il en faut.
Voilà, et de l'authenticité surtout, et pour de la bienveillance. Donc tout ça, c'est en vous aussi, Guillaume. Donc merci. À tout à l'heure, 23h, pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.